Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les 16 premiers versets. C'est donc Paul qui écrit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Ça paraît un peu mystérieux tout ça, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Donc jusque-là. Alors, on avait vu au chapitre 3 que Dieu se constitue un nouveau peuple, fait exclusivement de rachetés par le sang de Christ. Circoncis de cœur, on avait expliqué ce que ça voulait dire, c'est-à-dire né de nouveau, composé de juifs et de païens, un seul peuple. Et on vient de lire donc ces 16 versets-là. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Le mot clé de cette exhortation, c'est le mot « digne ». Et digne de quoi ? De l'appel dont les lecteurs païens et juifs de Paul, habitant la province romaine d'Asie, ont été appelés. Bien entendu, cet appel nous concerne nous aussi, nous membres de l'Église du XXIe siècle, ici à Villefranche. Le Seigneur, dans sa grâce, a appelé chacun de nous. Et je suppose que ceux qui sont présents ce matin dans cette salle ont répondu à cet appel. Mais en quoi consiste cet appel? Alors le même apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30, l'explique. Nous savons en outre que Dieu a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné la gloire. Je ne vais pas détailler ces versets, Je suis sûr que notre frère Rémi va le faire dans les semaines ou mois qui viennent. Je veux juste insister sur le fait que ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. On parle souvent de la prédestination, un truc un peu compliqué. On est prédestiné à quoi ? À ça. À devenir conforme à l'image de son Fils. On est appelé à devenir conforme à l'image de son Fils. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est tout bonnement époustouflant. Mais c'est bien ce que Paul écrit. C'est de ce projet, de ce processus que Dieu veut que nous nous montrions dignes. Alors il nous faut voir ce que cela implique. La première implication, on l'a lu, est un appel à l'unité. Mais celle-ci ne peut être réalisée que sous certaines conditions, et ce sont celles du verset 2. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Bon. Ce sont les qualités qui ont été visibles, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a vécu comme homme sur notre terre. Alors, reconnaissons, je pense, avec humilité, que ces qualités nous manquent beaucoup. L'humilité, c'est savoir reconnaître nos torts et estimer l'autre supérieur à nous-mêmes. C'était une vertu frappante de notre Seigneur, encore que lui, bien sûr, n'avait jamais tort. De tous les chefs religieux et les moralistes du monde, Jésus-Christ est le seul à avoir proposé un petit enfant comme modèle, écrit John Stott, un modèle d'humilité. L'humilité est indispensable à l'unité à laquelle nous sommes appelés. Derrière toute discorde se cache l'orgueil. Tandis que l'humilité est le plus grand et en même temps le plus simple secret de l'harmonie. Reconnaissons que la vanité personnelle affecte profondément toutes nos relations. La douceur, c'est un des fruits de l'esprit, comme on le sait, hein, dans la liste de Galates 5. Jésus, en parlant de lui-même, exhortait ses auditeurs à prendre son joug sur eux, car il est doux et humble de cœur. C'est une qualité que nous malmenons, hélas, souvent, dans nos rapports mutuels. Reconnaissons-le aussi. La douceur n'est pas synonyme de faiblesse. C'est plutôt la gentillesse du fort capable de contrôler sa force. C'est une vertu que tout membre de l'Église devrait exprimer. Elle convient particulièrement aux pasteurs et aux anciens qui devraient user de leur autorité que dans un esprit de douceur. La patience. Mon frère ou ma sœur n'est toujours pas comme je voudrais qu'il soit. Pourtant, plus le temps. Il aurait dû progresser. Oui, il aurait dû. Mais il faut être patient, comme le Seigneur l'a été avec ses disciples. Ne pensez-vous pas qu'il a été patient quand il n'était préoccupé que de la place qu'ils espéraient avoir dans son royaume? Ou encore quand il n'arrivait pas à comprendre qu'il allait devoir mourir pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire? Et Dieu n'est-il pas patient envers chacun de nous? Supportez-vous les uns les autres avec amour. Le verbe grec, bon, c'est anekomai, qui peut être traduit par supporter, endurer, faire bon accueil. Selon même un spécialiste, ce verbe indique prendre patience envers quelqu'un jusqu'à ce que la provocation soit passée. Bon. Combien limité est souvent notre support mutuel. Alors que selon Paul, l'amour est patient, plein de bonté, ne s'aigrit pas contre les autres. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Tout le monde connaît ces paroles magnifiques de 1 Corinthiens 13, qu'on lit volontiers et avec raison à l'occasion des mariages, parce que là aussi, c'est un domaine où il faut de la patience. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. L'apôtre nous demande de nous efforcer de conserver cette unité. C'est donc que ce n'est pas évident. Que cela nous demande un certain effort. Et le moyen de conserver cette unité, c'est de préserver la paix entre nous. Alors, sommes-nous prêts à nous engager devant le Seigneur à faire cet effort? Voulons-nous vraiment que notre Église soit paisible? Au verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. » Rappelons-nous la prière de notre Seigneur en faveur des siens en Jean 17, verset 11. « Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » Et ce commandement de notre Seigneur en Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Au chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc, en parlant d'une seule espérance, Paul pensait peut-être aux Juifs et aux païens devenus chrétiens et qui avaient peut-être de la peine à comprendre que désormais, c'est la même espérance qui les faisait vivre, au-delà de leurs différences culturelles, qui étaient majeures à cette époque. Au verset 5, « Il y a un seul Seigneur. » Une seule foi, un seul baptême. Un seul Seigneur, ben ça contraste bien sûr avec la multiplicité des divinités dans lesquelles les païens se confiaient jusque-là pour leur vie. Une seule foi, il s'agit là du contenu de la foi, la doctrine chrétienne, enseignée par Jésus puis par ses apôtres, fixée une fois pour toutes. Un seul baptême. Eh bien, le baptême, vous savez, c'est l'acte extérieur d'obéissance par lequel chacun déclare publiquement sa foi en Jésus, reconnaissant que ses péchés ont été lavés par son sacrifice à la croix. Tous sont appelés sur cette base à se faire baptiser et ainsi à entrer dans le nouveau peuple de Dieu. Un seul Dieu est Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Le texte grec dit plus succinctement qui est au-dessus de tous. Alors la traduction du semeur que j'ai lu surtraduit par « qui règne sur tous ». Mais cette traduction reflète bien le sens de l'expression. Notre Dieu est le souverain suprême qui règne sur toutes choses. C'est extrêmement sécurisant pour nous. Comme le dit Paul ailleurs, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Mais c'est également exigeant. Y a-t-il des domaines de notre vie où Dieu ne règne pas? Qui agit par tous. Et oui, c'est le bon plaisir de notre Dieu d'agir par notre moyen, en particulier pour annoncer la bonne nouvelle du salut en son Fils Jésus-Christ. Mais aussi de contribuer chacun à la bonne santé spirituelle de notre frère ou de notre sœur avec l'aide du don particulier que le Seigneur nous a donné. Qui est en tous. Jean 17, 22, toujours cette fameuse prière de Jésus. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Notre unité est le plus puissant témoignage rendu à Jésus-Christ notre Seigneur qu'il est bien l'envoyé du Père. Il faut y penser, hein ? Après avoir décrit cette unité du nouveau peuple de Dieu, que ce dernier est exhorté à conserver, Paul va montrer que l'unité n'est pas uniformité, bien au contraire. C'est l'objet des versets 7 à 16. Alors voilà au verset 7. « Cependant, chacun de nous, c'est individuel, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu » selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Dans l'original, on trouve les mots « grâce », »,« charis » et « don » ou « cadeau », »,« doréa » en grec. Cela renvoie bien sûr aux autres passages où Paul en particulier, mais aussi Pierre et d'autres, parlent des dons que le Seigneur fait à son Église. Ici, Paul décrit la diversité de ces dons et nous allons voir qu'elles contribuent à l'unité du corps de Christ, l'Église, et particulièrement pour l'édification de ce corps. Chacun de nous reçoit un ou plusieurs dons dont le but est de contribuer à l'édification commune. Ces dons sont d'importance variable, mais tous sont nécessaires à une croissance harmonieuse. Les versets 8 et 9, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Alors là, c'est là le passage un peu difficile. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Bon. En fait, Paul cite là le psaume 68, verset 19. Ce psaume parle de l'Éternel, vu comme un roi victorieux, qui monte sur les hauteurs vers son sanctuaire, traînant derrière lui ses ennemis vaincus et distribuant le butin à son peuple. Dans le contexte du psaume, c'est ça. Hein, un roi victorieux, qui son cortège triomphal, et qui distribue le butin hein, à son peuple, enfin, à ses soldats. Alors Paul dit, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Évidemment, Paul pense à Jésus. Hein. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait des dons. Comme souvent, Paul cite l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, de façon hardie et surprenante, hein, pour nous qui, culturellement, sommes attachés plutôt à des citations exactes. Mais il n'y a pas de doute que c'est le Saint-Esprit qui lui a suggéré cette comparaison audacieuse. Alors voilà ce qu'il veut dire. Christ partage la gloire de l'Éternel, Christ qui partage la gloire de l'Éternel, a vaincu les puissances spirituelles de méchanceté à la croix. Il les a dépouillées et livrées publiquement en spectacle. Colossiens 2, verset 15, dit « À la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Et ce butin, prélevé sur les vaincus, le roi le distribue à ses troupes. » Là, la comparaison de Paul est vraiment hardie. Hein ? Car il fait de ce butin les dons que Christ glorifié distribue à son Église. Et ces dons, nous allons le voir, ce sont des hommes chargés d'une mission. Contribuer à l'édification de son corps. Alors l'analogie de Paul est un peu étonnante, hein, pour, dans notre mentalité d'homme du XXIe siècle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la défaite des autorités spirituelles de méchanceté dont Paul va parler à la fin de sa lettre, eh bien c'est cette défaite que Christ met à profit pour nous équiper afin de les combattre nous aussi. Il en parlera beaucoup dans le chapitre 6 de cette même épître. Cette défaite établit la suprématie absolue de Christ. Il remplit l'univers entier et justifie son autorité pour distribuer, comme il l'entend, des dons à son nouveau peuple, l'Église. Alors au verset 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Nous avons dans le Nouveau Testament plusieurs listes de dons. Celle de 1 Corinthiens 12, 28, de la plume du même Paul, ressemble beaucoup, au moins pour les premiers dons mentionnés, à celle que nous avons ici. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Nous voyons que là, Paul fait une certaine hiérarchie dans ses dons et que ceux qui sont cités en tête de liste sont tous des dons de la parole. En dernier, dans les autres listes, hein, notamment dans celle de 1 Corinthiens 12, en dernier, dans ces listes, nous trouvons les guérisons miraculeuses, le don des langues et tout ça. Dons qui, curieusement, sont montés en épingle dans certains milieux comme les plus importants ou les plus désirables. Cela veut dire que l'enseignement de la parole est fondamental pour la bonne santé spirituelle de l'Église. C'est particulièrement la responsabilité, bien sûr, des enseignants, mais l'étude de la parole est de la responsabilité de chacun aussi. Alors, il a fait don de certains comme apôtres. Qui est-ce ces apôtres ? Le mot grec « apostolos » signifie simplement « envoyé ». On voit à l'évidence que le Nouveau Testament en fait deux usages, voire même trois, très différents. Il y a d'abord les apôtres du Christ, qui ont été les témoins oculaires de sa personne quand il était sur cette terre, depuis son baptême jusqu'à son ascension au ciel, selon le critère établi par Pierre, sous la direction du Saint-Esprit, dans le premier chapitre du livre des Actes que nous verrons mardi. Ces hommes ont été choisis spécialement par Christ lui-même pour être ses témoins, et particulièrement pour rédiger d'ailleurs la plus grande partie du Nouveau Testament. Ce sont ces textes apostoliques qui sont la norme de notre foi. Alors le Nouveau Testament emploie aussi le mot apostolos pour parler d'envoyés des églises. Ces envoyés peuvent être des missionnaires qui vont implanter des églises, ou bien même de simples délégués des églises chargées d'une tâche particulière, comme par exemple apporter le fruit d'une collecte d'argent aux églises qui sont dans le besoin. C'était aussi des apostolos. Dans notre passage, il est clair que c'est du terme apostolos au sens fort, que Paul parle. Les témoins directs du Christ. Les 12, plus Paul. Les principaux rédacteurs du Nouveau Testament. D'autres comme prophètes. Paul fait probablement allusion d'une part aux prophètes de l'Ancien Testament qui pouvaient réellement dire « Ainsi parle l'Éternel ». Prophètes dont les écrits constituent une part très importante de nos Bibles. Le rôle des prophètes était d'appliquer la parole de Dieu aux circonstances particulières que traversait son peuple. Mais certainement aussi, je pense aux prophètes du Nouveau Testament, un don bien réel, mais qui n'est pas revêtu de la même autorité que ceux de l'Ancien Testament. On le voit bien dans 1 Corinthiens 14, par exemple. L'Église est appelée à évaluer leurs prophéties. 1 Corinthiens 14, 29, « Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. » Ou encore, 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21, « Ne méprisez pas les prophéties. » Là, Paul parle des prophéties prononcées dans l'église locale. « Au contraire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. » Si l'on comprend bien ce que Paul entend par le don de prophétie dans le Nouveau Testament, c'est le don d'appliquer la parole de Dieu aux besoins ou circonstances particulières que connaît l'église locale. D'autres comme évangélistes. Tous les membres de l'Église sont des évangélistes, au sens où chacun est porteur de la bonne nouvelle du salut qu'il est censé répandre autour de lui. Mais certains ont reçu un don spécial pour l'évangélisation. Ils ont la hardiesse nécessaire pour parler de l'Évangile, pour le faire d'une façon claire et convaincante, le discernement pour trouver le bon moment et s'adresser aux bonnes personnes. D'autres, comme pasteur et enseignant. Alors ces deux dons sont liés dans notre traduction, tout comme dans l'original grec. Le mot pasteur est relativement rare dans le Nouveau Testament. C'est le mot poimen, qui signifie berger. Ça veut dire littéralement berger. Celui qui conduit le troupeau. C'est un don. Il faut donc avoir l'appel de Dieu pour l'exercice de ce don. Il est évident que le pasteur doit être capable de nourrir son troupeau, c'est-à-dire de lui enseigner la parole de Dieu. En revanche, le don d'enseignant ou de docteur, qui est distingué, peut être reçu et exercé par des personnes qui ne sont pas nécessairement pasteurs. Par exemple, on a les enseignants des instituts bibliques, qui ne sont pas forcément pasteurs, mais qui pour autant sont tout à fait capables d'enseigner correctement la parole de Dieu. Le verbe dérivé de ce mot pasteur, poimen, petre, est employé par Paul et Pierre aussi pour désigner l'activité pastorale des anciens. Le rôle de ces bergers est non seulement de nourrir spirituellement le troupeau, mais aussi de le protéger des intrusions de faux bergers qui tentent d'introduire des enseignements subversifs. Paul adresse cette exhortation aux anciens de l'église d'Éphèse en acte 20, versets 28 à 30. Veillez donc sur vous-même. C'est Paul qui dit ça aux anciens d'Éphèse. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Et le suivant. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Les quatre dons que Paul nous présente ici, qui sont des hommes, sont tous donnés à l'Église pour que chaque membre soit équipé en vue du service qu'il a à accomplir. Les apôtres ont posé le fondement définitif de la doctrine chrétienne. Les prophètes ont le don d'appliquer la doctrine aux circonstances que traverse l'Église. Les enseignants expliquent et détaillent la doctrine. Les pasteurs prennent soin de fournir à chacun la nourriture spirituelle qui lui est nécessaire et d'écarter les ennemis, notamment les mauvais enseignants. Le but que Dieu poursuit en faisant ses dons à son Église, c'est la croissance spirituelle de tous les membres et leur équipement pour exercer leurs propres dons en faveur de l'Église, c'est-à-dire de leurs frères et sœurs. L'Église tout entière va ainsi croître dans l'unité de la foi vers un état adulte qui va tendre vers la plénitude même du Christ. Quel incroyable objectif, n'est-ce pas? Mais c'est bien le projet de Dieu en nous équipant ainsi. Verset 14. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Selon Paul, la qualité de l'enseignement dispensé dans l'Église est le meilleur garant contre les hérésies. Les chrétiens affermis dans la parole de Dieu ne se laisseront pas abuser par ces mauvais ouvriers habiles à entraîner dans l'erreur. Il paraît que pour entraîner les banquiers à reconnaître les vrais billets des faux, on les entraîne à palper des vrais. Pas les faux, les vrais. Et c'est comme ça que, intuitivement, ils arrivent à reconnaître, maintenant il y a des machines en plus, hein, mais autrefois on faisait comme ça, à reconnaître les vrais. Donc il faut d'abord s'imprégner de la vérité, de la parole de Dieu. Verset 15, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Ça, c'est le but. Enseigner et pratiquer la vérité est essentiel, mais dans l'amour, dit Paul. La vérité de la parole ne peut pas être dissociée de l'amour pour ceux à qui elle est adressée. 2 Timothée 2, versets 24 à 26. Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable avec tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Avec douceur. Qui sait si Dieu ne les amènera pas à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Verset 16, c'est de lui, Christ, que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortunité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Christ a mis en place tout ce dispositif de dons pour assurer la croissance spirituelle de son Église. Mais bien sûr, cette croissance passe par la contribution de chaque membre dans lequel Christ agit personnellement. Chacun de nous a son rôle à jouer, son don à exercer, et cela, pas pour nous-mêmes, mais en faveur des uns des autres. Voilà le secret du fonctionnement harmonieux du corps de Christ. Voulons-nous y contribuer ou rester sur la touche? Que chacun se pose la question devant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et vous bénisse.